Mesdames et messieurs, je voudrais en premier lieu remercier au professeur Beau qui m'a offert l'opportunité de vous présenter un projet en cours, c'est-à-dire l'édition des œuvres complètes de Hans Kelsen, les Hans Kelsen Werke, dont je suis le directeur. Mais avant de commencer, je voudrais en second lieu bien vous prier d'excuser mon français heurté, mon français à l'accent irrésistible d'outre-Rhin. Bon, voici le plan de matière. D'abord, quelques mots sur l'auteur, sur Hans Kelsen. Ensuite, une courte caractérisation de la théorie pure du droit, bref et superficielle. Ensuite, nous nous tournons vers l'œuvre scientifique de Kelsen. Et à la fin de ma petite intervention, nous nous occupons de l'édition, c'est-à-dire de la technique, de la taille, des intentions, des cibles, des objectifs. Commençons par l'auteur, par quelques dates biographiques. Kelsen, il est né à Prague en 1881 dans une famille juive. Il était le fils aîné d'Adolphe et d'Auguste Kelsen. Prague, à ce temps-là, était la capitale de la Bohème qui faisait part de l'Empire autrichien. Alors, ce n'était pas la capitale de la Tchécoslovaquie à ce temps, mais la capitale de la Bohème faisant part de l'Empire autrichien, austro-hongrois. En 1884, la famille déménageait de Prague à Vienne. Et à Vienne, Kelsen a fait ses études, a fait son bac, il a visité l'université de Vienne et il était habilité, ou il a fait son habilitation en 1911, c'est-à-dire nous avons le centenaire de sa habilitation, pour la discipline droit constitutionnel, ou plutôt droit public et philosophie de droit. En 1918, il fut conseiller constitutionnel du chancelier autrichien Karl Renner. Karl Renner fut le premier chancelier autriche dès le déclin de la monarchie austro-hongroise en 1918. C'était le premier chancelier d'une jeune république autrichienne qui s'appelait d'abord République Deutsch-Österreich. Hans Kelsen a participé à l'élaboration d'abord des lois constitutionnelles à titre transitoire, puis en 1919-1920 à l'élaboration de la Constitution fédérale définitive du 1er octobre 1920, dite Bundesverfassungsgesetz, alors la loi constitutionnelle fédérale. En même temps, presque, en 1919, il fut élu juge constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle autrichienne, le Verfassungsgerichtshof. Il était le successeur de son professeur, Edmund Bernatic, qui est tombé mort en mars 1919. La Cour constitutionnelle autrichienne était établie quelques mois plus tôt, en décembre, je crois, 1918. Elle était la première de son format. Bon. C'était, j'ai oublié, le même temps. En 1919, il fut professeur agrégé auprès de l'Université de Vienne, aussi ici comme successeur de son professeur, de son maître, de Edmund Bernatic. Bon, son temps en Autriche, à Vienne, va finir en 1930. En 1930, Kelsen a dû quitter l'Autriche, à cause des conflits à la Cour constitutionnelle, lesquels avaient affaire avec le traitement juridique des mariages mixtes. Qu'est-ce qu'ils plaidaient pour, dans cette affaire, pour une position libérale. C'était les conservateurs qui ont gagné cette lutte. Alors, il a dû quitter l'Autriche et il allait au Reich, à Cologne. Il est devenu professeur agrégé auprès de l'Institut de Cologne et nommé professeur de droit international et de la philosophie de droit. La faculté de droit de l'Université de Cologne était tout jeune. Elle n'avait à ce temps que 5 ans. Elle était installée, je crois, en 1925, ou réinstallée. Mais il n'est resté en Allemagne qu'en 1933. En avril 1933, il était suspendu de ses fonctions en vertu de la loi sur la restauration de la fonction publique, en allemand Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtums. C'était une loi nazie qui avait le but de purifier le service public et des juifs et des communistes. Bon, et c'était son collègue Karl Schmitt qui était le seul à n'en pas signer la lettre de support que la faculté de droit déposait au ministre prussien responsable. Alors, il devait quitter Cologne et il avait des offres des universités de Londres, London School of Economics, de New York et, last but not least, de Genève. Il a pris la décision d'aller à la Suisse à cause de la langue. Il ne maîtrisait à ce temps-là pas l'anglais et son français, même s'il n'était pas bien, était améliorable. Alors, il est devenu professeur auprès de l'Institut universitaire des hautes études internationales à Genève. En même temps qu'il était à Genève, il a pris un engagement à l'université allemande, Deutsche Universität, à Prague, son lieu de naissance. Mais des étudiants nazis ont rendu impossible pour Kelsen d'y faire des cours. Ainsi, il a abandonné son professorat à la Tchécoslovaquie, à Prague. Quelques mois après le débordement de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, la famille Kelsen, qui vécut en exil suisse, estimait la situation en Suisse comme incertaine ou dangereuse et décidait d'émigrer aux États-Unis. Aux États-Unis par bateau à vapeur, de Lisbonne à New York. Alors, Kelsen émigré aux États-Unis. Comme docteur honoris causa de l'Harvard Law School et dû à l'intervention du grand philosophe droit Roscoe Pound, Hans Kelsen a eu l'opportunité d'être lecturer auprès de l'Harvard Law School à Cambridge, Massachusetts. Après un renouvellement de sa lectureship en 1941, un renouvellement ultérieur n'était pas possible. Alors, il a dû partir d'ailleurs et il est devenu lecturer et à partir de 1945, full professor auprès de l'Université de Berkeley en Californie. Il était mis à la retraite en 1952. À l'âge de 70 ans. En raison de son 90e anniversaire, en 1971, et en hommage de son œuvre, la République d'Autriche établit l'Institut Hans Kelsen Institute, une fondation fédérale autrichienne à Vienne. Et un peu moins que deux ans après, le 19 avril 1973, Hans Kelsen décède à Ohringa. C'est un petit endroit près de Berkeley. Il fut incinéré, et ses cendres étaient dispersées à l'océan Pacifique. Donc il n'y a pas de tombe de Hans Kelsen. Pour son œuvre, il a obtenu 12 doctorats honoris causa, parmi lesquels le doctorat honoris causa de l'Université de Paris en 1963 et de l'Université de Strasbourg en 1972. Il était honoré de 3 professorats honoris causa. Bon, j'ai fait une petite vue synoptique pour pouvoir voir ensemble les stages de sa vie, les phases de sa vie. Il a vécu alors dans 5 régimes différents, dans 5 ordres juridiques fort différents, de la monarchie austro-hongroise, de la République d'Autriche, dans le Deutsche Reich, la République de Weimar, et la dictature du Troisième Reich, la Suisse et les États-Unis. Enfin, les États-Unis, ou à la fin, les États-Unis à Berkeley, où il est tombé mort. Si on compare Kelsen à des scientifiques ou bien des intellectuels contemporains, on peut constater des coïncidences remarquables. Alors, c'est peut-être ce qu'on peut appeler un destin d'intellectuel juif ou d'intellectuel de provenance juive. Nous avons Kelsen, qui est né en Autriche-Hongrie et mort aux États-Unis. Nous avons Albert Einstein, né en Allemagne, presque de la même âge que Kelsen, et il est mort comme Kelsen. Il était exilé comme Kelsen. Il est mort aux États-Unis. Et le troisième, on a Raymond Popper, Sir Karl Raymond Popper. Il est né à Vienne, comme Kelsen en Autriche-Hongrie. Et il est mort, il était exilé comme Kelsen et Einstein. Et il est venu au Royaume-Uni. Il est mort, il est comme les deux autres, il n'est pas rentré de sa patrie. Mais il est resté de sa patrie nouvelle. Alors, Einstein et Kelsen sont devenus des citoyens américains et Popper, il est devenu un citoyen du Royaume-Uni. Je crois qu'il y a des coïncidences remarquables entre ces 3 personnes. Alors, Kelsen, il était non pas seulement un théoricien du droit, mais d'abord, il était un constitutionnaliste allemand, ou germanophone. Il était un constitutionnaliste weimarien, un des protagonistes du Weimarer Methoden- und Richtungsstreit, ce que Olivier Jean-Jean traduit avec la querelle weimarienne de méthode et des orientations, entre, d'une part, les positivistes, de l'autre part, les antipositivistes. Ce débat se déroulait premièrement, ou en premier lieu, au sein de la Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer, alors l'association des constitutionnalistes allemands, ou mieux peut-être germanophones, parce que c'est la réunion des constitutionnalistes de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. Les antipositivistes, donc vous les connaissez, c'est Rudolf Smet, Carl Schmitt et Olivier Beau. Déjà à parler de lui, Hermann Heller. Et Kelsen a lutté pour la côté positiviste. Mais Kelsen se prononçait pour un positivisme qu'on peut peut-être caractériser comme éclairé. Alors, il se prononçait contre le labandisme, contre le positivisme classique, alors le positivisme labandien, de la Begriffsjurisprudence de la deuxième moitié du XIXe siècle, et de l'autre côté, il se prononçait également contre tout subsocialisme juridique, ou toute forme de juste naturalisme. Je vais expliquer ça Comme conseiliste d'Amérien, il fut, comme peu d'entre eux, un partisan de la démocratie parlementaire. Une démocratie sur la base d'une société pluraliste. Alors, il ne présupposait pas la homogénéité à la schmittienne. Et c'était pour lui le compromis qui caractérise la formation de la volonté politique dans une démocratie libérale et non pas la décision de la majorité. Il soutenait la chance de la minorité de devenir à l'avenir la majorité, qui est pour lui la caractéristique de la démocratie libérale. Et en conséquence, il était favorable contre le Zeitgeist parmi les intellectuels weimariens. Il était favorable au Parteienstaat, au système de partis politiques. Un de très peu, je crois. Par exemple, LR est un autre. En outre, il était un protagoniste d'une jurisprudence constitutionnelle puissante, sous la forme qu'il connaissait de l'Autriche, d'une cour constitutionnelle indépendante. C'était le grand débat avec Carl Schmitt sur le gardien de la Constitution en 1931. Au centre de ce débat, on trouve la question de la contrôle des normes. Alors, le système de contrôle de constitutionnalité des lois, de la loi parlementaire. Schmitt déniait qu'il puisse avoir un juge le pouvoir de contrôler le législateur, et c'était Kelsen qui prit l'autre part, qui était le protagoniste d'une jurisprudence puissante. Et bien sûr, il est le fondateur de l'école viennoise de la théorie du droit, dite Wiener Rechtstheoretische Schule, ou bien Rein Rechtslehre. Théorie pure du droit. Alors, tournant vers Hans Kelsen comme théoricien du droit, comme théoricien de droit, oui. Sa théorie du droit cible ce qu'on peut peut-être appeler une anatomie juridique. La théorie pure du droit se limite à une analyse et description de la structure et du fonctionnement du droit. Et de décrire, pas prescrire. Parce que ça, c'est, dans les yeux de Kelsen, de la politique, non pas la tâche de la science. Il veut décrire le plus précis et objectif possible, le droit positif comme il est et non pas comme il doit être, ou devrait être plutôt. Et son positivisme est un positivisme juridique de caractère anti-idéologique ou bien sceptique, ce que j'ai avant appelé éclairé. De mon point de vue, c'est la coïncidence de normativisme et de positivisme que caractérise son positivisme juridique. Je vais expliquer en quelques moments ce que je vois de cette, je comprends dans cette coïncidence. Il y a, dans ma vue, quatre distinctions où cette positivisme juridique repose sur quatre disjonctions principales. La première est la distinction entre droit et morale. Je vais l'expliquer, trop court. La distinction entre l'être et le devoir-être. La distinction entre la connaissance du droit et la production du droit. Et finalement, la distinction entre le droit, d'une part, et la science du droit, la doctrine juridique, de l'autre part. Commençons par la première distinction, la distinction stricte entre le droit et la morale. Alors, qu'est-ce que revendique l'autonomie du droit sur la base d'un relativisme antimétaphysique? Le droit, comme droit, ne découle pas de la morale. Au-delà de quelle morale? Le droit, donc, est un phénomène normatif en soi, c'est-à-dire autonome. La deuxième distinction est la distinction stricte entre l'être et le devoir-être, entre le « sein » et le « soll ». Ça correspond donc au vis-à-vis de faits et normes. En dépit de la distinction stricte entre faits et normes, il y a des relations entre les deux, bien sûr. Mais, c'est la position positiviste, c'est la norme, ou la position normativiste, c'est la norme qui détermine lesquels sont les faits pertinents ou les faits juridiques. Et ces faits pertinents jouent le rôle de condition de validité, seulement de condition, mais non pas le rôle de cause de la validité juridique. La cause de la validité juridique ne peut être qu'une autre norme. Alors nous avons la coïncidence d'un normativisme qui n'existe pas dans un moralisme et d'un positivisme qui n'existe pas dans un naturalisme. La troisième distinction est celle entre la connaissance du droit et la production du droit. La première est une question de méthode ou une question épistémologique, tandis que la deuxième est une question de compétence, alors une question du droit positif. Ce sont deux questions. Laquelle est la règle de droit qui détermine le pouvoir discrétionnaire? Cette question vise à la lex lata. Et la deuxième est comment exercer ce pouvoir discrétionnaire. Cette question cible à lex ferenda. Alors la quatrième distinction, la distinction finale, est celle, la distinction stricte entre le droit et la science du droit ou la doctrine du droit. Alors c'est la distinction entre l'objet scientifique, le droit, et la science même. En ce qu'elle nous répète continuellement, il ne faut pas les entremêler. Le droit positif ne peut pas obéir aux besoins scientifiques, d'une part, et d'autre part, la science du droit n'a pas les compétences de produire du droit en vigueur, ou de mettre le droit en vigueur. Cette théorie pure du droit est une théorie en dynamique, ou une théorie dynamique, c'est-à-dire une théorie en évolution pendant plus de 60 ans, ou plus de 50 ans, de 1911 peut-être à 1973, l'année de la mort de Kelsen. Le développement ou les mutations de la théorie pure du droit ne s'arrête jamais, ne s'arrête qu'à la mort de Kelsen, mais même pas à ce moment, parce que la théorie générale des normes, elle apparaît 6 années après la mort de Kelsen en 1979 en Allemagne. Bon. Avec tout réserve, on peut, pour des buts heuristiques, bien sûr, distinguer, ou je suppose de distinguer, 4 phases dans l'œuvre de Hans Kelsen, les phases qui d'ailleurs ne se conforment pas aux phases biographiques dont nous avons parlé. Alors la première phase est la phase qu'on peut appeler, avec une allusion kantienne, la phase pré-critique. Elle se déroule de 1905 à 1910. La phase critique commence avec son œuvre capitale, Les Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, les principaux problèmes du droit public, de la doctrine publiciste, en 1911. C'est de 1911 à 1924, à peu près, une première phase de formation. C'est-à-dire, les éléments de la pure théorie du droit sont développés successivement dans ces décennies. Il y a deux ouvrages majeurs, dont l'une sont les Problèmes de 1911, et le deuxième est Le problème de la souveraineté et la théorie du droit international, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, de 1920. Cette phase de formation, phase formatoire, est suivie par la phase classique qui dure de 1925 à peu près 1960 ans. Cette phase classique est une phase de, on peut dire, consolidation de la pure théorie du droit comme théorie intégrale du droit. Les cinq œuvres clés de cette phase, ce sont la Allgemeine Staatslehre de 1925, la théorie générale de l'État, la première édition de la pure théorie du droit en allemand de 1934, la General Theory of Law and State, la théorie générale du droit et de l'État, la version anglo-américaine en 1945, c'est une version qui fait un petit coller les deux versions, de la théorie générale de l'État de 1925 et la théorie pure de 1934 pour le marché américain. Et plus simplifié pour le marché américain. Alors, on a la pure théorie du droit de 1953, notamment en français, la traduction française de Henri Thévenin, et la seconde édition de la pure théorie du droit en allemand en 1960, qui forme la fin de cette période, de cette phase classique. Alors, entrons dans la phase finale, la phase sceptique. C'est la dernière décennie de la vie de Kelsen, et cette phase est caractérisée un peu d'une approche dans un certain sens irrationaliste. Alors, Kelsen ne croit plus dans une propre logique juridique. Il abandonne cette idée et il radicalise ses idées sur la pure théorie du droit. Ils sont son œuvre clé de cette période, et notamment la théorie générale des normes de 1979. Alors, je vais vous donner que deux, trois petits exemples des modifications qu'a subi la théorie pure du droit. Et quelques mots clés doivent être suffisants. En premier lieu, on a la conception de la validité juridique, c'est-à-dire la conception de la Grundnorm, de la norme de base. En premier lieu, Kelsen la conçoit comme une condition logico-transcendantale, en sens quasi kantienne. Et il suit la conception de la Grundnorm comme hypothèse, et la conception finale qu'il présente est la conception d'une fiction dans le sens de Hans Feinger, dans le sens de la philosophie du Comte de Hans Feinger, un néo-kantien. Bon, le deuxième exemple est le changement de conception, d'une conception classique ou statique de l'ordre juridique envers une conception dynamique. Alors, conception dynamique, c'est-à-dire la loi parlementaire n'est pas l'ordre juridique, elle n'est plus au centre de l'ordre juridique, mais au centre, maintenant, il trouve la concession. C'est le rôle de la concession, le rôle et l'importance de la concession en 1911, la concession qui dirige le législateur n'a pas d'importance juridique pour Kelsen. Il dit que c'est un rôle purement politique, on ne peut pas le concevoir juridiquement. Alors il le laisse à part. La production des lois, la législation, n'est pas un thème pour lui dans sa deuxième thèse, sa thèse d'abolition en 1911. Ce n'est qu'en 1914 qu'il développe, dans une théorie de la fédération, un ordre d'échelon, un ordre de formation de droit par degré, le Stufenbau de la Rechtsordnung, un mot-clé qu'il emprunte de son disciple Adolf Merkel. Mais Kelsen, nous l'avons vu, est loin d'être seulement un théoricien du droit et un constitutionnaliste weimarien. Ses intérêts et ses efforts scientifiques sont multiples. On doit se rendre compte des multiples champs d'activité scientifique dans ce Kelsen. Alors d'abord, et notamment, c'est la théorie du droit et la théorie générale de l'État. Ensuite, c'est le droit public, et là notamment le droit constitutionnel. Mais dès le part à Cologne, à Genève, à Harvard et à Berkeley, il devient un internationaliste. Alors, c'est le droit international et la théorie du droit international. Il a présenté deux chefs-d'œuvre du droit international. Il présente le premier commentaire de la charte de l'ONU, The Law of the United Nations, en 1950. Et il paraît le chef-d'œuvre Principle of International Law, les principes du droit international, en 1952, et la deuxième édition en 1966. Il s'occupe de la philosophie du droit et de l'État, de la philosophie sociale et même de la sociologie du droit et de l'État. Bon, je laisse à part les œuvres kelseniennes les plus célèbres. Je vais vous montrer quelques chiffres sur l'œuvre de Kelsen, si l'on distingue les œuvres publiées et celles-ci non publiées. Alors, on a les publications dont on a 53 ouvrages monographiques avec environ 11 000 pages. On a encore plus de 300 articles, contributions non monographiques, avec environ 6500 pages, ça fait 17, à peu près 18 000 pages de publication. Et les œuvres inédites, ou les archives, les fragments et textes scientifiques non publiés de Kelsen, ce sont environ 60 000 pages. Ces archives se trouvent à Vienne, à l'Institut Hans Kelsen. Le défi de Kelsen, il avait deux filles, seulement deux. Moi j'ai trois. Alors, deux filles de Kelsen, Anna et Maria, Ils ont décidé à donner les archives de Kelsen, les archives scientifiques de Kelsen, au préalable à son disciple, son secrétaire et son ami, Rudolf Adelard Metal, qui a écrit la biographie de Kelsen en 1969. Et après la mort de Metal en 1975, les archives ont été transférées à l'Institut Hans Kelsen à Vienne, où ils sont jusqu'à nos jours. Et si on se rend compte des langues, des publications originales de Kelsen, on a l'allemand, sans couleur, je m'excuse, l'anglais et le français. Et ça se distribue de manière suivante, environ 10 000 pages, ou à peu près 60% en langue allemande, environ 6 000 pages, ou environ 35% en anglais, et 800 pages des publications originales, parmi la traduction de Henri Thévenaz en 1953, cet ouvrage il n'y en a pas en allemand, seulement en français, alors ça fait environ 3,5%.
Ça ne fait pas 100%.
Pardon ?
Ça ne fait pas 100%.
Non, ça fait à peu près...
Il y a du belge ?
Non, du tchécoslovaque, etc., etc., du brésilien, le portugais, l'italien. Bon. Mais ce sont les trois langues majeures de l'œuvre de Kelsen. Bon. Alors, ça fait à peu près 96%. Bon. Il y manque 3-4-5%. Ah, t'es vite, hein? Bon. Une chose que j'estime qu'on ne doit pas sous-estimer est la différente réception ou les différentes réceptions de la théorie pure du droit, ou bien plus largement la différente réception de l'œuvre entière de Hans Kelsen. Parfois, on peut avoir l'impression s'impose qu'il n'y a pas une seule théorie pure du droit, une théorie pure du droit universelle et identique, mais qu'il y a une pure théorie du droit allemande, une théorie pure du droit française, anglaise, peut-être américaine, espagnole, italienne, etc. Ce sont multiples raisons, je crois, qui peuvent être faites responsables de ce phénomène. Et la raison la plus ostensible et manifeste est la question de langue, c'est-à-dire la question d'accessibilité linguistique ou bien de la barrière linguistique. Quels ouvrages sont accessibles, par exemple, en anglais, lesquels en français? Pardon, je dois mettre... Non. De plus, on ne doit pas négliger l'importance de la qualité de la traduction, d'une traduction d'un ouvrage. Parce qu'il y a souvent une corrélation frappante entre la qualité de la traduction, d'une part, et la réception d'un ouvrage traduit, de l'autre part. Je peux vous donner deux exemples de mauvaise ou faible traduction qui ont nui, à mon avis, à la réception des ouvrages relatifs. C'est d'une part la traduction de la General Theory of Law and State, c'est une traduction mauvaise, traduite de l'allemand en 1945, et c'est la traduction de la seconde édition de la pure théorie du droit allemande de 1960, qui était traduit en 1967. Ce sont des mauvaises traductions. Ils ont nui à la réception de ces deux ouvrages. Alors, dans l'anglosphère, on traite la première édition de la pure théorie du droit. C'est une traduction excellente de Stanley Potts, mais il l'a fait, ne l'a fait qu'en 1992. Et la traduction bonne, on va dire, de la théorie générale des normes, Allgemeine Theorie der Normen, General Theory of Norms, qui était faite en 1987. Bon, mais il y a des raisons ultérieures. Parmi eux, les lieux de publication et de diffusion très divers et dispersés. Il y a des lieux très dispersés de publication, posent un grand problème d'accessibilité, un problème spécifique d'accessibilité. Une autre raison, c'est la question d'une présence des ouvrages de Kelsen dans les enseignements à l'université. Par exemple, en Brésil, la première édition de la pure théorie du droit, traduite de l'espagnol au portugais, forme une lecture obligatoire dans les cours de droit de première année. C'est tout autre chose en allemand. Bon, parmi les raisons ultérieures, il y a bien sûr des aspects de culture juridique. La culture est-elle favorable à un accès positiviste ou normativiste? Est-elle favorable à une version analytique de la théorie du droit? Ou quelle sorte de théorie du droit est la théorie favorisée de cette culture juridique? À mon avis, ce sont des questions très importantes. Et finalement, il y a des obstacles ou conditions favorables, d'une part obstacles, de l'autre part conditions favorables spécifiques de réception. Par exemple, en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à les années 80, il y avait une ambiance, une humeur anti-kelsinienne, pour l'essentiel une ambiance schmittienne ou smendienne. Et ensuite, en conséquent, anti-kelsinienne. Et par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a la prédominance de la théorie analytique du droit de la version de Echelhart, de la version hartienne. La version hartienne de Herbert Hart, elle a, peut-être on peut dire, gêné la visibilité de la façon de théorie de droit kelsenienne. Alors ce sont des obstacles spécifiques de réception qu'on doit tenir compte. Bon, je voudrais bien vous démontrer une petite... Ceci, vous pouvez quelque chose, je crois, d'intéressant. Attention. Pour revenir au point d'accessibilité linguistique, vous voyez une petite compilation des chefs-d'œuvre kelséniens qui sont parus en français. Parmi eux, il ne se trouve qu'un seul ouvrage original, c'est-à-dire la théorie pure du droit, traduit par Henri Thévenas en 1953, la première édition allemande, je l'ai mis en italique, voilà. L'édition de 1953 est améliorée et un peu changée en rapport avec l'édition allemande de 1934. Ce qui est frappant, c'est qu'en partie, il y a un délai remarquable entre la parution de l'original allemand ou anglais et la traduction française, notamment quant à la traduction du gardien de la Constitution. On a un trois quarts siècle entre les deux. Si vous le dire de manière pointue, le décalage entre l'apparition de la version originale et l'apparition de la traduction peut en effet rendre l'ultérieur en un nouveau livre, mis dans un nouveau contexte, un contexte qui a totalement changé. Alors, ce livre, c'est autrement, comme un autre livre. De cela, je crois qu'on doit se tenir compte. Si on part des réceptions différentes de l'ouvrage, de l'œuvre de Kelsen, de la théorie pure du droit de Kelsen. Bon, laissez-moi maintenant dire quelques mots sur l'entreprise éditoriale des œuvres complètes d'Hans Kelsen, des Hans Kelsen Werke. Alors, c'est un réseau à quatre nœuds. Il y a le centre de recherche de Hans Kelsen à Erlangen, et dès avril à Fribourg. Il y a l'Institut Hans Kelsen à Vienne. Nous avons traité un contrat de coopération avec l'Institut. L'Institut, il a des archives kelseniennes et en plus, il est le propriétaire des droits de publication. Alors, nous avons besoin de l'Institut Hans Kelsen à Vienne. La maison d'édition est une maison célèbre en Allemagne. C'est la maison d'édition de Morzibek à Tübingen, en Bade-Württemberg. Et le quatrième nœud, c'est le conseil scientifique de l'édition des Hans Kelsen Werke, qui se compose des chercheurs majeurs de la scientific community, du kelsenianisme. Les Anglais disent que sont les Kelsenites. C'est un mot pas mal parce que les Kelsenites, je parle de Kelsenites et je veux démontrer la différence entre Kelsenite et Kelsenian. Kelsenites, ce sont ceux qui s'occupent de l'œuvre de Hans Kelsen. Mais ils ne doivent pas être nécessairement des Kelseniens, donc des partisans du kelsenianisme. Et notre conseil se compose de membres, hors de l'Allemagne, de 16 pays, dont naturellement la France, avec nos membres Otto Fersman, que je salue, et Michel Tropper de Paris Nanterre. Bon, laissez-moi perdre quelques mots sur ce qu'on pourrait appeler la philosophie de l'édition. C'est une, ou elle prétend d'être une édition critique, en allemand historisch, kritische édition, historico-critique. Mais plus précisément, c'est une édition hybride. Hybride parce qu'elle veut être d'une part, ou elle veut préserver d'une part l'authenticité des textes kelseniens, c'est-à-dire elle contient la reproduction et le commentaire critique, commentaire en guillemets, critique des textes originaux. De l'autre part, elle cible à la modernité de la présentation, c'est-à-dire une présentation correspondante aux attentes et aux habitudes d'aujourd'hui. Alors, c'est d'établir et de maintenir un équilibre fragile entre ces deux défis partiellement contradictoires. Parce que pour un juriste, que je suis, il ne s'agit pas d'établir une philologie parfaite à l'égard de l'œuvre de Roskelsen. C'est une édition en premier lieu pour les juristes, pour les philosophes du droit, et non pas pour les philologues. L'édition contient tous les textes, ou va contenir tous les textes scientifiques, soit publiés, soit non publiés. L'édition ne contient que la version originale, la version de la publication originale, et elle fait référence aux versions antérieures, dont les annotations éditoriales généalogiques. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Et les traductions et les réimpressions sont enregistrées, mais ne sont pas reproduites. Ce n'est pas possible, hein, en vertu de l'immensité de l'œuvre dans ce qu'elle sait. Alors, l'arrangement des textes suit une chronologie double. J'ai choisi un arrangement chronologique et non pas thématique parce que, à mon avis, c'est essentiel pour une édition critique de contextualiser ou de situer les œuvres individuelles dans la suite de l'œuvre entière. Alors, une double chronologie, la généalogie des textes publiés sur la base de l'autorisation de Kelsen, qui vont couvrir les volumes 1 à 29 à peu près, et une deuxième généalogie des textes soit inédits, soit publiés, mais publiés sans le consentement de Kelsen, alors notamment les textes publiés posthumes. Ils forment les volumes à partir de 30 jusqu'à, bon, personne ne le sait, 45, 50, je ne sais pas. Bon, les textes kelseniens sont reproduits dans la langue originale, c'est-à-dire environ 76% en allemand, anglais et français. Même les textes dans une langue moins connue, par exemple comme le tchèque, sont reproduits tels quels, mais ils sont suivis d'une traduction en allemand. Oui, parce que qui sait lire le tchèque ou le portugais, etc. Bon, on présente en premier lieu sur une page de l'édition, je vais vous la présenter plus tard, le texte Kelsen, les notes en bas de page kelsenien inclus. Et en deuxième lieu, séparé d'un trait de séparation, la notation de l'éditeur. Et nous avons choisi ou décidé pour l'unité des annotations éditoriales, soit de caractère généalogique, soit de caractère rectificatif, soit de caractère explicatif. Alors, les annotations généalogiques, ils font la référence à des versions antérieures, soit l'autographe, le manuscrit, les épreuves, etc. Il s'agit de référencer les changements, les améliorations, soit de caractère stylistique, soit de contenu. Alors c'est l'élément critique de cette édition. Les annotations rectificatives, alors il s'agit du contrôle des citations, des références dans le texte Kelsen. On vérifie si Kelsen a cité conformément aux règles de la science, s'il a cité correctement. Et sinon pas, on le rectifie dans les annotations. Et les annotations explicatives, ça s'explique soi-même, sont les explications soit de personnes, soit de lieux, soit d'événements qui sont inconnus ou moins connus aux lecteurs d'aujourd'hui. Bon, la structure d'une page de l'édition des Hans Kelsenwerk, vous avez alors le texte kelsenien et la note en bas de page kelsenienne. Au-dessus de la trêve de séparation, et de l'autre côté, vous avez les annotations éditoriales. Okay. Quand on le voit de plus proche, c'est le texte Kelsen, vous avez la page originale, du texte original, afin que vous puissiez citer de l'original, si vous travaillez avec les éditions. Vous avez les notes en bas de page kelseniennes et vous avez les notes en bas de page éditoriales. Ce sont marquées de différentes manières. Si nous tournons vers les annotations éditoriales, nous avons, comme j'ai dit, trois types d'annotations. On a l'annotation rectificative. Par exemple, Kelsen cite Simmel, il dit entgegenzusetzen, mais dans l'original, on trouve gegenüberzustellen. C'est un peu autre chose, mais c'est le devoir des lecteurs de le rectifier. On a une annotation généalogique. Alors, dans l'orthographe, orthographe du premier échelon, peut-être on peut dire ça, il n'a mis que deux mots et il a amélioré ou mis une sentence entière dans la moitié de mots dans son orthographe, ce qui était imprimé. Alors, c'est une annotation généalogique. Et la troisième catégorie d'annotation est une annotation explicative. C'est l'exemple de Schleiermacher, un philosophe allemand. Donc, quelques dates de la vie, etc. Bon. Nous font un facsimilé du frontispice de chaque ouvrage monographique. C'est l'exemple des Hauptprobleme. Alors, c'est le frontispice original, facsimilé de l'original, et c'est notre page 1. Oui, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz. Et sur cette page 1 de l'édition, on trouve les références des traductions et des réimpressions. Alors, c'est la page 1 que vous avez vue. Et si on va grandir, vous avez Übersetzungen, les traductions entières, l'œuvre entière, en italien, en polonais, en espagnol. Et on a des traductions partielles en italien et en japonais. Trois versions en japonais, si vous saviez le lire.
Je ne sais pas en français.
Ben non.
Je veux dire en japonais.
Et si nous avons un orthographe d'un texte, nous présentons aussi quelques orthographes, un orthographe illustrandi causa. Alors, vous l'avez. Vas-y. Alors, il se trouve de cette façon sur la page, Moi, je tourne afin que vous puissiez le lire. Kelsen, c'est de l'autographe de Haut Problème, et Kelsen se sert d'un caractère allemand périmé dit courant, autrichien, peut-être. Mm-hmm. Hein? Alors,
c'est...
Pardon?
Pas seulement.
Bon, alors, c'est pas trop facile à lire. Bon, mais c'est seulement illustrant des cas. Par exemple, l'autographe des Hauts Problèmes contient 2421 pages. Alors, on n'a pas pu les reproduire tous. Hein. Pour terminer, je vais vous présenter le plan de l'édition actuelle. Alors, on a 3 volumes déjà parus, les volumes 1, 2, 3. Vous verrez les volumes 1 des doigts, et 1, 2, qui couvrent la phase de 1905 jusqu'à 1917. Et en avril, peut-être, oula, pardon, en avril, peut-être en mai, j'espère en avril, paraîtra le volume 5 qui contient texte de 1919 à 1920. Il contiendra à peu près 770 pages. Alors, en fin de compte, j'ai une photo qui montre le président fédéral autrichien, Heinz Fischer, avec la petite fille de Hans Kelsen, Anne Federli, qui vit à Honolulu, lors de la présentation de l'édition, le 11 octobre, l'anniversaire de Kelsen, 2006, au Parlement autrichien à Vienne. Et si vous cherchez des informations supplémentaires, soit sur l'édition, soit sur le centre de recherche Hans Kelsen, vous les trouvez ici. Alors, merci beaucoup de votre patience. Je suis à l'attente de votre question. Merci.